Eh bien, je m'appelle Michel Boyer et je suis depuis, enfin, je vais résumer les quelques 30 dernières années. Depuis les 30 dernières années, je me suis consacrée à travailler sur la relation client, sur le client. Et c'est ce qui a provoqué cette envie de parler du client mécontent et de dire ce qu'on peut faire face à un client mécontent.
Ouais, tu viens d'écrire en fait un livre qui s'appelle SOS Clients en colère, nos clients nous font vivre, sachant les en remercier. Alors ça, c'est un titre qui me parle énormément, parce que c'est vrai que avec la situation économique, la parole un peu sans filtre qui arrive de plus en plus, je trouve qu'on a quand même beaucoup de clients qui dépassent parfois un peu les bornes, qui sont en colère à juste titre ou à moins juste titre. Et justement, ton livre est là pour aider les entreprises et les services clients à faire face à ce genre de comportement et savoir mieux traiter les clients. Alors justement, de quoi parle ton livre ?
Mon livre parle du client et de ce qui fait qu'il va être satisfait. Alors, c'est intéressant la question que tu m'as posée, parce que tu dis qu'il y a des clients désagréables, il y en a des plus désagréables que d'autres, il y en a qui sont vraiment grossiers. C'est vrai. C'est notre époque qui veut que ça ait débordé. On était moins mal élevés il y a 30 ans ou 20 ans. N'empêche que quand un client insulte un collaborateur de l'entreprise, il ne l'insulte pas par envie de l'insulter, à part quelques malades mentaux. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais je dis globalement, les clients ne sont pas des malades mentaux. C'est des gens qui souffrent, qui n'ont pas ce qu'ils veulent, qui estiment qu'ils ont payé pour l'avoir et qui ne l'ont pas. Donc pour moi, un client qui est furieux, c'est pas un client qu'on va punir en lui disant « Monsieur, soyez poli, je suis contre cette approche ». Parce que s'il est hors de lui, il a des raisons d'être hors de lui, essayons de les comprendre. Donc, mon approche, c'est de dire que quel que soit le comportement du client, le rôle du conseiller qui est en face, c'est de se dire « Pourquoi est-il dans cet état-là » et « Comment je fais pour le ramener au calme ?» Et mon travail et mon livre portent là-dessus. Et toutes les formations que j'ai pu faire au cours des 30 dernières années sur les réclamations portent là-dessus, c'est de dire le client est légitime a priori quand il est mécontent. Donc moi, mon métier, c'est de calmer ce mécontentement et de l'amener à comprendre ce que l'entreprise que je représente peut lui apporter. Alors parfois, le client est mécontent pour des mauvaises raisons. Il est mécontent parce qu'il n'a pas compris son contrat. Il est mécontent parce qu'il attend des choses que nous ne sommes pas en mesure de lui donner. Mais j'ai voulu, dans ce livre, à travers les exemples concrets, qu'on pouvait dire non à un client tout en le gardant satisfait. Quand je dis satisfait, ce n'est pas le mot satisfait, mais qu'il comprenne.
Pas insatisfait, mais qu'il comprenne pourquoi il a eu sa réponse.
Voilà. Donc, en fait, moi, j'ai des exemples multiples. Dans mes clients passés, j'ai des exemples multiples de clients qui, à la fin d'un entretien, remerciaient la collaboratrice ou le collaborateur, qui lui avait expliqué pourquoi il ne pouvait pas avoir ce qu'il demandait, mais qu'il avait fait avec tellement de gentillesse, de compréhension, d'attention, qu'il l'a remercié de son attention. Ouais. Et il avait compris pourquoi on lui disait non. Et c'est ça le but. Dans ce livre, je donne plein d'exemples, parce que je crois que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. Alors, je vais aborder peut-être un sujet annexe, qui est celui de la vision que, que les collaborateurs d'entreprise, à travers l'entreprise, ont acquise du client. Ils ont acquis une vision, c'est le client qui doit obéir. Le client doit faire ce qu'on lui dit de faire. Quelque part, c'est vrai, mais en même temps, le client d'aujourd'hui n'accepte pas d'être manipulé. Le client d'aujourd'hui, il dit « mais c'est moi le client, hein, laissez-moi parler, j'ai le droit de dire ce que je veux ». C'est les phrases des clients. Alors, il faut lui dire « effectivement, vous êtes le client et vous avez le droit d'exprimer votre sentiment ». Maintenant, moi, je représente l'entreprise et je suis là pour vous expliquer les choses auxquelles vous avez droit et celles que vous ne pouvez pas avoir. Simplement, il faut qu'on s'entende, qu'on parle, qu'on dialogue. Et donc, en fait, je montre à travers dans ce livre des exemples concrets où le client était hors de lui parce qu'on lui disait non, et le collaborateur a su ramener le calme et arriver à ce que le client ait compris pourquoi on lui dit non. En fait,
alors
la
justement,
vraie...
c'est quoi cette méthode? Parce que on parle depuis des années d'être empathique, d'écouter le client, de poser un cadre. Quelle est en fait cette méthode que tu présentes dans le livre pour essayer justement de transformer des clients qui sont mécontents, furieux, en personnes qui vont écouter justement et qui vont comprendre? Ou alors, est-ce que c'est le rôle du collaborateur d'être justement à cette écoute
Oui,
et de
oui,
s'adapter?
oui.
Alors, dis-moi
C'est
tout.
le rôle du collaborateur. Alors, là, je vais prendre, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Le collaborateur, on lui a trop assigné un rôle de mécanique, c'est-à-dire il est là pour faire appliquer la procédure. Mais le client n'attend pas des procédures. Le client attend une réponse à son problème, à son émotion, à ce qu'il a senti de tromperie, de mensonge à travers la réponse. Il n'a pas confiance dans les réponses qu'on lui fait. Parce qu'effectivement, il sent que l'entreprise est plus préoccupée d'appliquer ses règles que de l'écouter. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça veut dire que c'est ce qu'il perçoit, le client. Donc, moi, mon but avec les formations que j'ai faites et ce que je décris et je développe dans ce livre, c'est... Oui, c'est l'empathie. On est d'accord sur les mots. C'est bien de l'empathie de dire à quelqu'un, mais monsieur, madame, je comprends parfaitement votre colère. C'est normal d'être en colère quand on se retrouve comme vous dans une situation difficile. C'est de l'empathie. Mais qui le fait? À travers toutes mes années de travail avec des gens, des conseillers, des
Du
relations
client,
clients,
ouais.
oui, des conseillers clients, je les entends. Pour eux, l'empathie, c'est je comprends. Mais quand on a dit je comprends et qu'on n'a pas dit ce qu'on comprend et que ce n'est pas sincère, le client n'y croit pas. Donc en fait, moi, et j'aime bien, je suis contente d'avoir écrit ce livre parce que j'ai le sentiment que 2 jours de formation, c'est insuffisant dans ce que j'ai fait avec eux hein, dans le passé. J'en ai formé à peu près 2000 ou plus, mais j'ai passé 2 jours et ce n'était pas relayé par le management derrière.
Ouais.
C'était pas relayé. Donc forcément,
Ouais, t'apprends une formation, mais comme ça ne devient pas un réflexe parce que tu reprends tes vieilles habitudes, bah tu continues après à faire comme avant, quoi. Ça dure
voilà.
une petite piqûre, ça dure 3, 4, 5 jours, et puis après il y a la pression, il y a la routine, et tu oublies.
Oui, tout à fait. Et donc, enfin, j'ai beaucoup apprécié certaines entreprises avec qui j'ai travaillé parce que elles se contentaient pas de faire 2 jours de formation. Elles m'ont demandé de revenir, de faire des piqûres de rappel. Et dans ces entreprises, on a beaucoup progressé, dans ces entreprises-là. Mais j'en ai fait beaucoup, des formations, c'était des one-shot. Je revenais pas. On avait fait une formation, ça devait être acquis. Comment peut-on changer la vision qu'on a de l'entreprise, la vision qu'on a de soi face au client? Comment peut-on changer si on ne s'est pas entraîné à travers des jeux de rôle, de la pratique? Donc, on sort de la formation. Alors, j'en ai qui sont sortis enthousiastes. Alors, ceux-là, ils essayaient de travailler et de revenir. J'en ai qui m'ont dit, j'ai gardé votre manuel de stage sous la main pour y aller chercher des exemples de mots, de phrases. Mais ce n'est pas beaucoup ceux qui m'ont dit ça. Ils ont été repris par leur quotidien. Et leur quotidien, c'est un manager qui vient leur dire « T'as vu le temps que t'as pris avec ce client, il était trop long. Le client, il veut... Si tu veux, je voudrais dire que j'ai en particulier une personne qui est formidable parmi mes clientes. C'est une personne d'une mutuelle. J'ai travaillé, comme tu as pu voir dans mon livre, il y a un témoignage de GFP. Qui était une mutuelle qui s'appelle maintenant Noveo Care, enfin ça doit se dire Care, et qui ont. J'ai travaillé avec eux longuement, c'est le témoignage que je mets dans ce livre, longuement, et on a travaillé pour mettre en place des méthodes qui permettent de mettre le client vraiment au centre des préoccupations. Et ceux qui ont joué le jeu ont changé, mais même cette jeune femme dont je te parle, elle est responsable d'un plateau d'appel. Donc, elle a fait le maximum. Mais c'est la personne qui, un jour, je vais donner l'anecdote. Un jour, j'étais sur le plateau et j'entendais les collaborateurs qui disaient aux clients, j'ai cité ça dans mon livre, qui disaient aux clients, vous serez remboursé, on a disparu, vous serez remboursé dans une semaine. Alors qu'il y avait un délai de 2 ou 3 semaines officiel, qu'on ne pouvait pas compresser. Donc, elle disait ça, et moi, je dis
La
à la
conseillère.
conseillère, je lui dis, mais bon, la première fois qu'il vient au téléphone, d'accord, mais quand il revient pour vous dire,
Ah
je ne suis
ben
pas
purée.
remboursée, comment vous faites? Ben, elle me dit, je suis mal à l'aise, je suis très stressée, et je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous ne dites pas la vérité? Parce que je n'ai pas le droit de le dire.
Ouais.
Vous voyez, c'est les procédures, les règles. On n'a pas le droit de dire qu'on a du retard. J'en ai parlé avec cette fameuse jeune femme qui m'a fait des commentaires dithyrambiques sur mon livre. J'ai parlé avec elle sur le plateau à l'époque et je lui ai dit, mais pourquoi on ne pourrait pas expliquer, trouver une formule pour expliquer au client quelque chose d'acceptable, mais qui ne met pas le conseiller en difficulté et le client? Parce que forcément, le client qui ne voit pas venir son remboursement, il va être hors de lui. Ah, elle me dit, oui, vous avez raison, c'est compliqué, parce que GFP, à l'époque, c'était quand même une société compliquée, parce qu'il gérait les mutuelles de plein d'entreprises différentes. Donc, il y avait les règles de l'entreprise qui venaient prendre le pas sur les règles de GFP. Et donc, en fait, elle me dit, ben, écoutez, moi, je vais le faire. Je vais prendre la décision, je vais chercher. On a cherché ensemble des formules qui permettaient de montrer au client qu'on était vraiment préoccupé de lui, mais qu'on avait des choses à régler, des difficultés de recrutement, de personnel, etc. Et qu'on ne pouvait pas lui donner sa réponse dans le temps qu'il voulait. Mais en même temps, on s'est mis d'accord pour que si le client était dans l'urgence, on traitait son urgence. C'est-à-dire dire à tout le monde, vous serez remboursé dans une semaine, ça veut dire qu'on nivelle par le bas. Mais si on dit au client, je vais vous répondre tout de suite, mais d'abord, dites-moi, je vais regarder votre dossier, etc. Et on analyse son cas au cas par cas. On analyse son cas. Est-ce qu'il est dans l'urgence? Est-ce qu'il n'a pas de quoi manger à la fin du mois? Ou
Ouais.
est-ce
Bon,
que
là, on fait une procédure d'urgence, on voit si on peut faire accélérer les choses, passer le dossier en premier,
Absolument.
quoi. Donc,
Absolument.
ouais. Donc ça veut dire il faut former les gens, mais il faut donc aussi donc changer les mentalités, tu sais, revenir régulièrement, faire une piqûre de rappel, avoir les managers qui sont là pour relayer et qui soient formés, et essayer d'améliorer les process de l'entreprise pour justement ne pas mettre les conseillers dans l'embarras.
Absolument, absolument. Le conseiller dans l'embarras est un conseiller qui va plus être sincère, il va plus être vrai. Donc en fait, moi je préconise la sincérité. Quand on dit à un client, Monsieur le client, je me mets à votre place, c'est très dur pour vous ce qui se passe, et je vais faire le maximum pour vous trouver une solution rapide, le client y croit.
Ouais.
Mais il faut savoir le dire. Hein, si vous regardez le témoignage de Thomas Vallot dans mon livre. Thomas Vallot, c'est le directeur commercial de Vélib. Et dans son témoignage, il explique ce qu'il a découvert en faisant la formation avec moi. Il dit, à un moment donné, j'ai compris, je résume, à un moment donné, j'ai compris que nous mettions les process et les procédures devant les
Les clients.
préoccupations du client.
Bah ouais.
Voilà. Et donc, à partir de là, moi, je me rappelle bien cette formation. Elle a été dure. Elle a été dure parce qu'il ne voulait pas changer. Il voulait pas changer. C'est confortable de dire au client, c'est la règle. Mais ça fait des clients mécontents. Et Vélib a changé toute sa procédure, tous ses conseillers clients. Et un jour, je les ai. Alors, ça, c'est de l'anecdote. Un jour, j'étais à une remise des prix élus services clients de l'année. Et Vélib a ce prix souvent, tous les ans. Et je rencontre Thomas Vallot. Il me dit, je vais te présenter les gens que tu as formés il y a 10 ou 15 ans. Et il va chercher des gens. Je me suis dit, je vais me faire allumer. Parce
Ah!
qu'ils ne m'avaient vraiment pas du tout apprécié. Hein.
Ouais, ils n'étaient pas en phase,
Alors non, ben, ils ne
ils étaient pas
comprenaient
d'accord,
pas.
ils écoutaient pas, ouais,
Non,
ils étaient pas.
ce n'était pas leur vision. C'est ça que je veux te dire. C'est que si tu as la vision que le client doit obéir, tu ne peux pas avoir la vision que le client il a le droit de penser autrement que toi. Et ces filles, elles sont venues me voir. Je me suis dit, je vais me faire allumer. Ben non. Elles m'ont dit, merci. On a vraiment eu du mal à comprendre. On a eu du mal à mettre en place les choses que vous nous aviez apprises. Mais quand on les a mises, et Thomas Vallot, il était pour beaucoup, évidemment, parce que c'est lui qui a poussé à la roue, et en particulier à travers des exemples que j'avais donnés. Tout est très concret dans je reviens à mon livre parce que c'est ça l'objet de ton interview. Tout dans mon livre ce sont des exemples vécus. C'est-à-dire les phrases qui sont dites, c'est les phrases qui ont été dites. Les phrases que j'écris, c'est les phrases que les gens ont dites ou qu'ils ont écrites. Alors, c'est vrai, j'ai beaucoup travaillé sur l'écrit puis que c'est plus facile dans un livre de parler écrit parce que je l'ai écrit. Mais oralement, c'est pareil. Je veux dire, la question est la même qu'on la traite oralement ou pas, ou par écrit.
Ah ouais, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que c'est important de changer ça. Moi, la même chose chez nous, tu vois, on avait un process qui est, ben, si le client il a un problème, faut qu'il crée un ticket. Ok, mais la première fois qu'il crée un ticket, comment ils font? Ah, ben, la première fois qu'il crée un ticket, il faut qu'ils aillent sur le formulaire et qu'ils remplissent le formulaire. Ensuite, on leur envoie le mot de passe et ensuite, ils créent le ticket. Je disais, mais tu rigoles ou quoi?
Je le ferai jamais, moi.
Ben voilà, et ce qui se passe, c'est que mets-toi à la place du client de 2 secondes, et j'ai dit, mais laisse-moi créer le ticket pour lui, au moins. Et c'est vrai que j'ai créé le ticket pour lui. On me dit, ouais, mais c'est pas normal, ça doit être le client qui doit le créer pour ensuite recevoir les machins. Je dis, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est le client, tu l'énerves avant même d'avoir commencé, quoi.
Bah, tu sais, dans mon livre, je reprends les piliers qui ont été décrits par KPAM quand ils avaient fait une étude sur le terrain des attentes du client. Les attentes, la première attente, c'est quand même la facilité.
Oui.
Donc, ce que tu décris, c'est de la facilité. Aujourd'hui, moi, je décolère pas. J'ai passé ma journée d'hier à essayer de me connecter, de trouver des solutions pour remplacer un compte que j'avais fait par erreur enfin avec une mauvaise adresse mail. Mais j'étais bloquée par des formulaires qu'il faut remplir. Et moi, je ne sais pas les remplir. Ou je ne sais pas si je ne sais pas les remplir, mais en tout cas, ça ne donne pas le résultat attendu. C'est-à-dire qu'en fait, dans les entreprises, aujourd'hui, dans les entreprises, on suppose que le client est capable de faire toutes ces choses que eux ont appris. Ont apprise et que lui ne sait pas. Tous les clients ne sont pas des
Ah, des fans
idiots, hein.
d'informatique. Mais le pire, c'est que, tu vois, je crois qu'il y a à peu près 13 à 15% des Français qui souffrent d'électronisme, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas habitués à l'informatique. Et c'est vrai que quand tu leur mets du 100% digital, aller sur Internet, envoyer un email, des fois, moi, mes parents, mes beaux-parents, mon père, j'ai eu, c'était le plus mauvais service client que j'ai jamais vu de ma vie, c'est Airbnb. Pourquoi? Pas parce que ils n'étaient pas réactifs, parce qu'ils répondaient, tu répondais, tu appelais au téléphone, ils répondaient dans les 3-4 minutes. Tu leur envoyais un message, ils te répondaient relativement vite, en 5 minutes. Ce qui était mauvais, c'est que tu étais dans la procédure et que ça ne marchait pas. Pendant 3 semaines, il avait un problème de compte, de validation, de machin, de bidule, etc., etc. Et au final, au bout de 3 semaines d'énervement, et même moi, tu vois, qui suis plutôt calme, je disais, mais ça fait 10 fois, j'ai déjà expliqué mon problème à votre collègue. Il disait, oh, mais vous savez, moi, c'est différent, je m'occupe de vous et tout ça. Je dis, bon, ok, je vous donne la confiance. Et à chaque fois, il n'arrivait pas, il faisait pas le truc. Au final, je dis, bon, allez, laissez tomber, je recrée un nouveau profil de A à Z, et là, ça a marché. Mais c'était toute une histoire. Et si le mec m'avait dit dès le départ, bah, repartez de zéro et ça va être plus simple, j'aurais fait.
Oui, ben, si tu veux, tu vois, par exemple, mon problème d'hier, c'est avec KDP, c'est-à-dire Amazon, l'éditeur Amazon. J'ai fait une question, j'ai pris un formulaire et j'ai posé une question. Ça n'a pas été simple de trouver le formulaire, mais j'ai posé la question. J'avais la réponse hier soir. Il n'y avait pas de réponse parce qu'il n'a pas tous les éléments, mais il était chaleureux. Ça me parlait, j'avais l'impression d'avoir un ami. Alors qu'entre-temps, j'avais trouvé ma solution. Ah, parce qu'en fait, on cherche quand même. Mais c'est vrai, c'est tout bête, hein, ma solution. J'avais créé un compte avec une adresse mail, alors que mon compte d'origine avait une autre adresse mail. Enfin, c'est tout bête, mais il faut y penser. Si tu veux, quand tu es le client, tu ne penses pas, j'ai donné une autre adresse mail. Tu vois, j'en ai plusieurs. Bon, c'était celle-là. Donc, en fait, si tu veux ce livre, tu sais ce que je voudrais? Je voudrais qu'il devienne un outil de formation continue. C'est-à-dire que je vois mes contacts, hein, parce que j'ai été en contact avec tous mes anciens clients, les responsables de mes anciens clients qui étaient favorables, hein, parce que j'ai des gens qui ont fait ma formation, mais comme on fait n'importe quelle formation. Là, je parle de ceux qui étaient vraiment
Oui,
convaincus.
voilà, ouais.
Ouais, convaincu que la relation client, elle repose sur des bases de pure amicale, amitié. Hein, moi, je dirais presque de l'amitié. Hein, c'est pas,
D'accord.
mais ils n'aiment pas. Alors, tu vois, là, par exemple, j'emploie un terme. Le client est un ami. On m'a répondu régulièrement. Le client n'est pas un ami. Le client n'est pas un ami. Je refuse que le client soit un ami. Pourquoi vous refusez que le client soit un ami? Ah ben. Parce que mes amis, c'est des gens proches et le client, il n'est pas proche. Bon, alors, comment vous voulez l'appeler? Si vous ne voulez pas dire ami, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, ils ont cherché, m'ont dit, on peut dire que la relation est amicale.
Ah.
Ouais. Donc, ils ont accepté le mot relation amicale. Mais tu vois où est le frein? Si on met une barrière, on ne veut pas que le client soit un ami, ben, le client sent une barrière. Et il sent pas de sincérité de la part de celui qui lui répond. Forcément. Alors que le client, il attend de la sincérité.
Et comme tu disais, je me mets vraiment à votre place. Quand tu te mets à la place d'un ami, tout d'un coup, tu dis, mais ah, je suis vraiment désolé, moi aussi, si j'étais à votre place, j'aimerais pas que ça soit que ça m'arrive. Alors, justement, mais comment on fait justement pour pas être dans la fausse empathie? Parce que là, justement, tu dis, ah bah moi aussi, à votre place, j'aimerais pas être content. Et le mec va te dire, non, mais vous n'êtes pas à ma place, vous connaissez pas mon
Ouais,
problème.
eh ben moi je lui dirais non, je suis pas à votre place. Je suis pas à votre place, incontestablement. Mais tu sais comment il va me croire? Parce que j'ai un ton qui fait qu'il va me croire. Parce que les mots que j'emploie, tu vois, j'ai dans le livre, je crois que je l'ai dit aussi, à un moment, je travaillais avec ce fameux valo là de chez Vélib, et dans la formation que je leur ai faite, et je l'ai fait avec beaucoup de mes gens formés. Je dis, devant la situation du client qui a accumulé des problèmes, je lui dis, mais monsieur le client, devant tout ce qui vous arrive, je suis catastrophé. Il m'a dit, quand tu nous as dit ça dans la formation, on était sidérés. Mais moi, je l'ai utilisé et ça marche à tous les coups. Parce pourquoi? L'empathie, c'est pas une apparence. L'empathie, c'est sincère. Alors, je sais que c'est compliqué ce que je dis, parce que s'il faut être, les gens vont me dire, oui, mais moi, je ne peux pas être sincère avec des gens désagréables. Eh ben, oui, mais expliquez-moi quel est votre métier. Est-ce que votre métier est de choisir les clients ou votre métier est de satisfaire le plus grand nombre de clients? Parce que si votre métier, il est de sélectionner les bons clients et les autres, on répond pas, ben, j'ai tout faux, moi, hein. J'ai rien compris. Mais sinon, il me semble que dans les entreprises, on ne veut pas que les bons clients, on veut les clients. Et si on veut les clients, ben, il faut comprendre qui ils sont. Il faut les comprendre. Il y a des gens désagréables, arrogants. Enfin, je prends le tableau où je montre tous les sentiments négatifs qu'on peut ressentir face à un client qui se comporte mal. Enfin, dis oui, vous avez ces sentiments. Mais vous n'êtes pas vous-même face au client. Vous êtes sur une scène de théâtre. Alors là, je ne l'ai pas pris dans mon livre, la scène de théâtre, parce qu'elle est rebattue quand même. On leur a dit je ne sais combien de fois. C'est vrai qu'on leur a répété des tas de choses qui ne sont pas passées dans les actes. Donc, moi, j'essaie de trouver quelque chose qui arrive à passer dans les actes. Et je pense que pour passer dans les actes, il faut que, en lisant, en relisant ce livre, ils se disent, oui, c'est vrai, j'avais pas tout compris. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout compris. quand il croit que le client, il faut lui dire soyez poli, qu'est-ce que ça change de dire à quelqu'un soyez poli? Je prends l'image que j'ai dû te prendre déjà, l'image de laisser ce lieu aussi propre que vous l'avez trouvé en entrant, ouais. Ça m'a toujours, je sais pas, énervé, irrité le poil. Cette phrase ne veut rien dire. Elle dit aux gens une injonction. Faites ça. Mais est-ce que moi, je suis bien placée pour leur dire de le faire? C'est pas mon rôle. C'est à eux de savoir le faire. Donc, soyez polis. Je vois tous ces trucs qui passent sur les sites.
Les affichettes où on dit attention.
Les affichettes, ouais. Le client, soyez polis, sourire ne coûte rien. Ça n'a aucun pouvoir. D'ailleurs, si ça en avait un, on l'aurait vu. Hein, ça ne se voit pas. Donc, ce n'est pas ça qui a du pouvoir. Ce n'est pas du côté des clients qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher du côté du collaborateur qui devient désagréable parce que le client est désagréable. À quoi ça rime? Son métier, c'est le client. C'est lui qui gagne sa vie avec le client. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai notées et qui est importante. C'est la notion de le client nous fait vivre.
Oui.
Ils sont tous d'accord. Mes stagiaires étaient toujours tous d'accord. Ça veut dire que, en étant d'accord, ils n'étaient pas d'accord pour ce qu'il fallait faire pour que le client nous fasse vivre. Donc, en gros, on est sans arrêt dans cette dichotomie entre ce qu'il faut faire. Moi, je le vois simplement dans les questionnaires préalables. Que je fais remplir à beaucoup de stagiaires, enfin pas à tous, mais que j'ai dans certaines formations. Un questionnaire qui teste leur manière de voir le client. Et la plupart du temps, ils sont avancés. C'est pas comme il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on aurait dit que le client, il fallait qu'il fasse ce qu'on lui dit. Aujourd'hui, on dit le client, il faut l'écouter, il faut être attentif, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire le client trop désagréable, celui-là, on n'en veut pas. Bon, et c'est ça qu'il faut surmonter. Parce que le client désagréable, il n'est pas désagréable. Il n'est pas né désagréable. Il est devenu désagréable dans un monde qui est devenu désagréable. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a des agressions permanentes partout, ce n'est pas parce que les gens sont devenus plus agressifs. C'est parce que les lois, les règles de l'éducation... Toutes les choses qui font qu'on respecte l'autre ne sont plus transmises, n'ont plus été transmises. Donc, en fait, il faut les réapprendre. Mais elles ne sont pas si difficiles à réapprendre. Mais quand même, ce matin, j'entendais, peut-être pas très intéressant pour tes auditeurs, mais j'entendais ces jeunes qui ont fait un refus d'obtempérer.
Ah oui, un refus d'obtempérer, oui.
Oui, un refus d'obtempérer. Donc, ça veut dire que c'est des gens coupés des règles de notre vie. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit derrière au maire? Ils lui ont dit, mais monsieur le maire, vous êtes bien d'accord, il n'a pas le droit de nous foncer dessus. Il n'a pas le droit de nous poursuivre. Tu vois, on est arrivé à quelque chose où c'est celui qui fait l'infraction qui dit que les autres n'ont pas le droit. Tu vois, donc, en fait, il faut réapprendre tout ça.
Mais bon, c'est vrai que tu me l'as dit, hein, l'incivilité, ça naît d'une frustration qui peut être directe ou pas, c'est-à-dire l'impuissance, l'humiliation, une injustice perçue qui est directe ou pas, mais c'est comme tu l'as dit, la personne qui fait une infraction, finalement peut-être qu'elle se sent impuissante, elle se sent humiliée parce qu'elle n'a pas moyen de réussir, etc., etc. Et donc finalement, elle a cette frustration en elle qui va arriver lorsqu'il y a un problème sur la colère et qui arrive après sur cette agression verbale. C'est ça en fait qui arrive. Et tout ça, c'est le tout de suite, l'immédiateté des canaux digitaux, moins de retenue de vocabulaire, les menaces, parce qu'on sait que si on gueule plus, si on dit je vais me plaindre à Julien Courbet ou sur les réseaux sociaux, on va plus m'écouter aussi.
Oui, par exemple, face à ce genre de choses, moi, j'ai souvent entendu dans mes formations, je veux dire, oui, c'est vrai, vous pouvez vous heurter au client. Vous pouvez. La question, elle n'est pas de savoir si vous pouvez le faire ou pas. La question est de savoir votre objectif. L'objectif d'une entreprise, c'est bien de faire du chiffre d'affaires et de faire du profit derrière le chiffre d'affaires. Donc, votre objectif, c'est que le client soit satisfait au final des produits que vous lui proposez. Donc, c'est votre rôle. C'est ça que je voudrais, que j'essaie de leur inculquer. C'est leur rôle. Alors, c'est vrai que j'ai pas affaire à des délinquants, moi. Dans mes formations, j'ai eu des gens bien élevés et la plupart du temps, je ne me suis pas pris de coups de couteau dans mes formations. Mais, je veux dire, parce que les entreprises ont des gens bien élevés et ont des recrutements qui font.
Bah justement, ouais, le recrutement, je pense qu'il est important aussi, parce que quand tu as des personnes qui sont orientées clients, qui ont une culture client, c'est un petit peu ce qu'a fait Guillaume Antonietti avec le COS, Customer Orientation Score, c'est mesurer lors du recrutement, bah justement, ce coefficient de culture client, et être
Ouais.
sûr que les gens veulent aider. Quelque part,
Oui.
c'est personnel, c'est un petit peu, alors c'est pas comme le disque, mais c'est un petit peu pareil. Tu vois qu'il y a des gens qui sont pas, moi je sais que j'aime aider. Et c'est vrai que la MNT, qui est un de nos clients, la Mutuelle Nationale Territoriale, leur slogan c'est aider est un beau métier. Et c'est vrai que
Ouais.
ça donne du sens. Et c'est vrai qu'ils ont aussi ce programme de relations clients intentionnées où
Je
tu
les ai
sais pourquoi
formés
tu es en
à la
service.
MNT. Je les ai
Ouais.
formés.
Ah
Ouais.
non, mais c'est vrai, et tu sens que cette relation client, elle est vraiment intéressante. Et ce programme-là, et comme tu l'as dit, c'est aussi le renforcement positif. Ils ont ce fameux module, les enquêtes de satisfaction qui sont publiées. Et en plus de ça, ils ont une module Bravo qui leur permet de recevoir une félicitation, non pas pour l'entreprise, mais pour eux. Et c'est vrai qu'ils disent, ah ouais, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Et on voit dans les commentaires, des fois, c'est, ah, je vois que vous avez, merci encore pour votre écoute. C'est rare d'avoir ça chez des personnes actuellement. Vous avez pris le temps de bien m'expliquer. Et portez-vous bien, je vois que vous aviez un petit peu mal à la gorge. Et là, on voit bien que
Ouais.
c'est quelque chose qui dit, ah, j'aide
Bon,
les
ben,
gens, je rends service.
t'as tout compris et c'est tout ce que moi je veux développer et que il y a des gens qui font un très bon travail sur le marché. Tu parles de Antonietti, de le COS, moi, enfin, je cite un peu les gens qui ont travaillé à côté parce que moi je ne travaille que sur la relation.
Oui.
Mais les gens qui ont travaillé à côté, comme le COS, comme les. Comment les
Alors, les comptes
chercheurs.
clients, il y a
Oui.
Daniel Ray, il y
Voilà,
a
Daniel Ray, il y
William
a.
Sabaty, il y a Pierre Vol, et il y a beaucoup de gens comme ça qui ont fait de très belles études.
Oui, ben je les ai cités parce que je pense qu'ils contribuent, ils contribuent par d'une autre manière à atteindre les mêmes objectifs. Mais enfin, si tu veux, je reste, moi, sur ma conviction qu'on pourra mettre en place tout ce qu'on veut, si l'individu n'a pas envie de servir, il n'y arrivera pas. Donc, le COS, c'est une bonne idée. Si tu veux, moi, j'ai toujours dit recruter des gens qui aiment les clients. Si vous recrutez des gens qui ont juste envie de finir leur journée, vous allez le voir tout de suite. Moi, j'avais pas de mal, j'ai pas de mal à avoir un plateau d'appel avec les gens qui sont orientés clients et les autres. Il suffit d'écouter. Tu te mets en hauteur, hein, sur une rambarde, en général, il y a une passerelle, et tu en entends les gens qui hurlent. Ceux qui hurlent sont ceux qui n'ont pas compris. C'est tout simple. On ne hurle pas face à un client. On l'écoute, on le lui dit.
Ouais,
Donc,
autrement, tu as une surenchère de la voix, et si
ah
tu as une
ben oui.
surenchère de l'envoi, bah à ce moment-là, ça va que monter en pression, parce que le client, on va lui couper, là toi, moi je t'ai coupé un peu la parole, si tu lui coupes la parole, il va se dire, mais écoute-moi au moins. Et c'est vrai que des fois, ça m'arrive avec ma femme, je lui termine la phrase, ou que je lui dis un truc, elle me dit, mais laisse-moi parler au moins.
Oui, mais dans sa vie familiale, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de créer des bonnes relations. Parce qu'en fait, on est impatient, on connaît l'autre. Enfin bon, je dirais que tout est plus facile dans la vie professionnelle. Enfin, ça devrait être plus facile. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je voudrais que ce livre, pour moi, je ne l'ai pas fait pour autre chose. C'est-à-dire relayer. Tu vois, dans ma vie, là, dans les 15-20 dernières années, j'ai formé des milliers de gens, des
1500
centaines
personnes,
et des
si tu veux.
centaines. Mais ces personnes-là, je voudrais que, pour celles qui sont OK, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui n'avaient pas envie de le faire, donc mauvais recrutement, mais je voudrais que ces personnes-là reprennent mon livre avec plaisir pour se dire, tiens, comme m'a dit la jeune femme de GFP que je citais tout à l'heure, elle m'a dit, j'ai retrouvé des exemples qu'on avait vus ensemble. Ça remonte à 15 ans. Hein. J'ai retrouvé les. Parce que ces exemples, c'est des exemples vécus qui sentent le vécu et que les gens qui vont le voir, les écouter, les lire, vont se dire, c'est vrai que je peux faire ça. C'est-à-dire arriver à passer ce cap de dire, moi, j'ai le droit qu'on me respecte. J'ai le droit qu'on me respecte, c'est un fait. Mais ce n'est pas parce que je le réclame que je vais l'avoir. Donc, demander à un client de me respecter, ça ne sert à rien. Je me fais respecter et je ne demande pas à être respecté. C'est tout le problème de l'éducation, d'ailleurs.
Alors justement, on arrive à une question centrale qu'on avait évoquée lors de cette interview, c'est comment dire non à un client sans pour autant le fâcher?
Alors là, j'ai des exemples multiples hein, dans le livre qui sont donnés de l'art de dire non. J'appelle ça l'art de dire non. C'est extrêmement simple à comprendre, mais en même temps, c'est complexe. Ça repose sur des choses complexes. Quand le client se trompe, il croit avoir droit à quelque chose à quoi il n'a pas droit. Lui dire d'emblée, votre contrat prévoit ça, voyez, donc vous n'avez pas droit, c'est obligatoirement créer la colère.
Ouais.
Pourquoi? Parce que l'émotion est ce qui domine. Je voudrais que les gens qui vont lire ce livre comprennent à quel point l'émotion est fondamentale. Et je le dis dans le livre, je passe par l'analyse transactionnelle. Je crois que je suis passée par DISC, mais un peu, bon, parce que c'est compris, c'est la même chose. DISC, moi, je suis, comment on appelle ça, j'ai une validation.
Ah oui, t'as été certifié.
Oui, je suis certifiée DISC. Donc en fait, mais je m'en servais pas plus que ça. Quand j'avais une opportunité, je le faisais avec mes stagiaires. Parce qu'il faut voir que 2 jours de formation, surtout qu'après on nous les a réduits à des journées très courtes, c'est très vite passé. Si tu veux dialoguer un peu, si tu veux écouter, si tu veux répondre à des questions. Pour moi, c'était infernal. Je suis contente d'avoir ce livre. Je pourrais leur dire, allez à la page temps.
Ouais, mais quelque part, tu as besoin d'avoir cet échange. Si tu dis, lisez cette page, en fait, c'est comme le coaching. Le coaching, si tu, c'est pas dire à la personne ce qu'elle doit faire,
oui,
mais tu dois la faire.
Faire
changer
faire.
D'état d'esprit. Ouais. Voilà, l'envie de faire. Voilà.
Lui donner l'envie de faire. Mais si tu veux, pour dire non, il faut commencer par se dire qu'est-ce qu'il ressent actuellement. Pour le faire, il faut que j'aille dans les choses comme l'analyse transactionnelle, comme DISC, l'empathie, quoi. Donc, moi, je reprends l'analyse transactionnelle pour expliquer que quand il y a 3 cerveaux dans notre boîte crânienne, que 2 sont émotionnels et le 3e est rationnel. Hein, on a le limbique, le comment il s'appelle l'autre, le
précortex ou quelque chose comme
ça. Non, le cortex c'est rationnel. Non, il y a le limbique, il y a celui qui est le plus vieux.
Le cerveau, ouais. Les 3 cerveaux, il y a celui rachidien, c'est pas celui-là.
Le reptilien.
Voilà.
Il y a le reptilien qui est le plus ancien, qui est le siège de nos émotions primaires. Il y a le limbique.
Le limbique qui est le siège.
Oui, et le cortex qui est tout en surface. Donc, si tu veux, quand on a un client en face de soi et qui est en colère, il est dans un échange avec vous, plus ou moins, ou avec lui-même, reptilien limbique. C'est-à-dire, je veux ça, tu me dis non, j'ai le droit d'avoir oui, etc., etc. On est dans un dialogue de sourds. Le cortex, c'est le lieu de la réflexion rationnelle. Donc, ce que je décris pour l'art de dire non, c'est de dire, tant que votre client est dans un état émotionnel, vous ne pourrez pas lui dire le contrat. Vous ne pourrez pas lui donner le contrat. Lui dire votre contrat prévoit ça. Donc, commencez par être empathique, tout bêtement. Donc, je fais un schéma dans mon livre que vous avez dû voir. Il y a les 2 cerveaux reptilien et limbique qui se bataillent. Et puis, il y a la manière d'en sortir. Donc, en fait, la seule solution, c'est de sortir de l'émotion. Et pour sortir de l'émotion, il faut faire de l'empathie. Donc, dire non à un client, il faut commencer par lui dire, mais monsieur, je comprends à quel point c'est difficile pour vous la situation. Vous vous retrouvez, mais quand je dis faire de l'empathie, c'est pas leur dire, oui, je comprends que c'est difficile, mais vous avez un contrat. C'est lui dire, je comprends que ce soit difficile, parce que vous attendiez ça, ça entraîne ça chez vous pour votre vie quotidienne, et je comprends à quel point c'est vraiment terrible pour vous. Bon, donc, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je fais tomber l'émotion. Le client qui
La
se sent
personne se sent compris.
compris, donc il perd son émotion. C'est un peu comme dans une scène de ménage. Si on était capable de dire à l'autre, je comprends très bien ton point de vue, mais on l'est jamais, hein. C'est comme les discussions politiques. Ben, moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas parce qu'il ne t'écoute pas de toute façon. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. Donc, c'est dire, je comprends votre vécu, c'est horrible. À votre place, c'est la phrase type qui marche bien. À votre place, à la limite, on peut dire, je serais encore plus furieux que vous. Tu vois la phrase qui est sincère, à votre place, je serais encore plus mécontent. Ça veut dire que j'ai vraiment compris. Donc, je fais tomber l'émotion. Quand j'ai fait tomber l'émotion, je peux revenir au rationnel. Et donc, l'art de dire non repose sur cette succession, empathie et réponse. Hein, je prends toujours un exemple qui est la plupart du temps celui d'un client qui a qui a eu un accident de voiture et qui ne comprend pas qu'on lui fasse payer une
La
franchise.
voiture de... Ouais, à la franchise, oui.
Oui, la franchise. Oh ben, j'ai dit oui, je comprends. Vous avez pris un tout risque pour être complètement tranquille. Je me mets à votre place. Et tout d'un coup, vous recevez une facture de 500 euros. C'est normal que ça vous mette en colère. Toi, tu dis ça, tu me disais, comment est-ce qu'on fait pour que l'empathie marche? Ben, elle marche parce qu'elle est sincère. Parce que tu arrives à te mettre dans la peau de l'autre, quoi. C'est tout. Donc, moi, je me mets dans la peau de quelqu'un qui se retrouve avec une facture de 500 euros qu'il n'a pas anticipée. Donc, je vous comprends. Maintenant, permettez-moi de vous préciser le contrat qui nous lie. Hein, dans votre contrat, vous avez choisi, et puis on lui explique ce qu'il a choisi. Mais lui, il est passé dans une autre étape, puisque j'ai fait tomber son émotion en la comprenant. Il est capable d'entendre mon raisonnement. Je ne dis pas qu'il est toujours. Quelquefois, il faut y revenir plusieurs fois. Hein. Ça ne se fait pas du premier coup. Mais quoi, il ne faut pas se dire, j'ai été empathique, maintenant il faut qu'il comprenne. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est, j'ai été empathique, bah, pas assez. Il faut y revenir. Il faut que j'y revienne. Pour moi, l'empathie, on y revient plusieurs fois
La
dans la
conversation.
conversation ou même à l'écrit. Si on perçoit que c'est dur à accepter, on peut y revenir. Donc, en fait, voilà, c'est ça l'art de dire non. C'est de jouer sur les moteurs de l'émotion, la manière dont elle fonctionne, dont elle tombe, comment on la fait tomber. Donc, quand je dis que j'aimerais qu'ils aient mes anciens stagiaires, j'aimerais qu'ils aient mon livre. Il y a une évaluation qui dit, je crois que c'est Dupuy Lobby, qui a dit un livre de chevet dans les avis sur Amazon. C'est un livre de chevet. Alors, je ne vais pas jusque-là parce que les pauvres, je ne veux pas qu'ils lisent ma prose quand ils vont s'endormir
Comme la Bible.
dans la Bible, non. Non, mais qu'ils le prennent comme un livre de quotidien. C'est-à-dire qu'ils puissent, je leur ai mis, tu me l'avais conseillé, je leur ai mis quelques exercices à faire sur des cas concrets à eux. Bah, j'espère qu'ils vont le faire. Parce que ça peut être une très bonne manière d'utiliser ce livre. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire à ceux qui liront ce livre, qui verront cette interview et qui liront le livre, de ne pas hésiter à m'appeler s'ils ont besoin de conseils. Moi, vous savez, je suis à la retraite maintenant, donc je suis disponible pour les aider s'ils en ont besoin.
D'accord. Bah, merci Michel pour ces bons conseils. Là, on arrive à la fin de notre échange. Si tu avais un conseil à donner à un manager cette fois, on ne parle pas des conseillers, mais on parle d'un superviseur, d'un manager, quel serait-il pour toi pour que il améliore l'efficacité de son équipe et fasse en sorte que les clients qui appellent ou qui répondent, qui reçoivent des emails, se trouvent améliorent l'expérience client. On avait parlé ensemble du fameux débat entre je et nous dans les courriers, et c'est vrai que tu l'avais bien dit, il faut dire du je suis désolé de ce qui vous arrive, nous avons fait une erreur quand c'est l'entreprise. Quel serait l'autre conseil que tu donnerais vraiment à ce superviseur ou à ce manager d'équipe pour essayer de faire en sorte que la perception des clients change?
Écoute, je crois qu'on l'a abordé au cours de l'interview, là. Parce qu'en fait, le manager qui se pose la question, qui j'ai recruté, qui sont mes conseillers, est-ce qu'ils ont la fibre client? Et moi, ce que j'ai entendu beaucoup au cours de mes formations, au cours de mes périples, parce que j'ai fait beaucoup d'audits aussi, j'ai beaucoup entendu des gens se plaindre que le collabor enfin que les managers ne les écoutaient pas, que les managers enfin reconnaissaient plus les gens pas très bons avec les clients que ceux qui étaient bons. C'est-à-dire que c'est pas être bon qui est la valeur. Hein,
Ouais, on
ceux
parlait de la DMT, est-ce que tu as pris autant d'appels alors que la satisfaction client, l'enquête de satisfaction, je parlais tout à l'heure du module Bravo et
Oui,
l'enquête de
oui.
satisfaction n'était pas suffisamment bien faite. Et c'est vrai que tu as parlé de la MNT, c'est vrai que nous, ils ont fait une enquête auprès des managers et des superviseurs, hein, enfin des conseillers et des superviseurs, et c'est vrai que dans 80% des cas, superviseur disait, j'utilise ces fameux Bravo, ces merci qui sont adressés aux clients dans mon management pour féliciter les équipes,
Voilà.
redonner du sens au métier.
Ben c'est ça que moi, si pour répondre à ta question, je dirais les managers que j'ai pu rencontrer ne sont pas assez impliqués dans cette vision client. Mais d'un autre côté, les managers, ils suivaient pas mes formations. Ça veut dire quelque part, ils restaient avec des vieilles idées.
Ouais.
Faut pas oublier que dans mon livre, c'est quand même plutôt d'avant-garde. Même si c'est que tout le monde en parle, moi je parle d'aller encore plus loin dans l'approche du client et dans la bienveillance vis-à-vis du client. Donc je vais plus loin que ce qui se pratique. Mais c'est vrai que les managers, je les critique pas, ils ont beaucoup de choses à faire et ils ont l'impression que leur travail n'est pas forcément d'être sur le fond. Mais si, moi, je leur dis, votre travail, c'est de reconnaître les collaborateurs qui sont bons avec le client. Ceux qui gagnent des clients, félicitez-les. Je n'ai pas dit qu'il fallait virer les autres, hein, mais d'accord. Mais soyez sur ce créneau-là. Du client qui, quand le client fait une évaluation, tu parlais des bravos, fait une évaluation favorable, que le collaborateur mis en valeur, soit reconnu par tout le monde. Si vous voulez, moi, ils m'ont souvent dit qu'ils ne se sentaient pas reconnus quand ils étaient bons avec le client.
Ouais, ça c'est vrai que c'est super important cette fameuse reconnaissance et c'est typiquement l'exemplarité. Tu
Oui.
montres par l'exemple. Et un manager souvent, s'il veut que ses collaborateurs soient à l'heure, faut qu'il soit à l'heure. S'il veut que les collaborateurs respectent les horaires et tout ça, il doit respecter les horaires. Et si tu montres ce que font bien les gens en disant ah bravo, ce que tu as fait, c'est bien en réunion d'équipe, en newsletter, en message Teams, etc. Ben forcément, les gens ils savent ce que tu attends d'eux et ils vont essayer d'adopter le comportement pour faire plaisir à leur chef. Ok.
Ouais, mais c'est vrai que les chefs, malheureusement, ne sont pas assez concernés par les formations. Hein, là, je redis un truc vraiment qui me vient à l'esprit, ils n'étaient pas assez présents dans les formations.
Ouais, ils disent c'est bon pour les collaborateurs, mais moi j'ai trop de boulot.
Voilà.
Sauf qu'en fait, c'est comme un directeur. Moi je sais que j'avais vu ça une fois. Un directeur qui dit bon, alors maintenant il y a un truc qui est un peu important, c'est la culture client. Hein. Vous savez, nous c'est au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. C'est pour ça qu'on fait cette formation. Et puis après, il dit bon, voilà, bon, allez, moi faut que j'y aille, je vous laisse faire la formation. Et il se barre. Et alors que non, si c'est vraiment important, tu restes.
Oui, oh ben j'en ai eu pas mal des managers qui sont restés. Mais globalement, quand même, j'ai eu plus de collaborateurs que de managers dans mes formations.
Il
Et
faut
je le
pallier.
regrette. Je le regrette parce que là où ça s'est
Bah, c'est la
passé
roue.
avec eux,
C'est la roue de transmission qui permet de
ouais.
passer entre le message de la com et les collaborateurs. C'est eux qui font la roue de transmission et qui disent bah oui, c'est ça qu'il faut faire, je te laisse du temps et je félicite, etc.
Ah oui, mais moi j'ai des. Je me souviens. C'est vrai que chez GFP, ça remonte à longtemps, hein, c'est au moins 15-20 ans. Et donc, en fait, je les ai complètement boostés et heurtés la jeune femme du plateau d'appel m'y revenait en disant oh, « Quand je pense que vous nous avez fait passer le fait de dire « je » à nos clients !» Et je me rappelle une formation qui devait être au début, quand j'ai commencé avec cette société, c'était un test pour eux.
Ouais.
Et que j'ai essayé de leur faire dire « je », c'était à l'écrit, réclamation écrite. Ils m'ont dit « mais c'est pas possible, on peut pas dire « je ». Mais j'en ai plein. Je peux te prendre tout le marché actuel de mes clients les plus chaleureux d'ailleurs, qui ont commencé par lutter contre moi pour le « je ». Et j'ai fini par les convaincre parce que je suis convaincue. Enfin, c'était évident. Si vous voulez être montré que vous êtes sincère, vous dites pas nous, vous dites je.
C'est ça l'empathie.
Okay. Oui, c'est ça.
Merci Michel pour cet entretien. C'était très enrichissant comme d'habitude. Donc bien entendu, si on veut trouver ton livre, on peut aller sur Amazon. Donc je vais répéter une nouvelle fois le titre qui est SOS Clients en colère. Nos clients nous font vivre, sachons les en remercier. Donc merci Michel pour ton livre et puis je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup, Frédéric.
Bye bye.
À bientôt. Salut. Bye bye.